La revue de presse. Bonjour Claude Ascolovitch.
Bonjour Nicolas.
Une histoire de traversée pour commencer ce matin.
Oui, la traversée de Gaïa, qui était une petite fille de 13 ans, qui un jour a dit à sa famille que non, il était un garçon, Gwen, il a aujourd'hui 15 ans. C'est donc une histoire de transgenre, une histoire de transgenre adolescent, c'est dans Rue 89, sur le web, et c'est surtout une histoire douce, une histoire de famille confrontée à une étrangeté imprévue. Les Costa de Roissy-en-Brie, ils posent ensemble un papa, une maman, trois enfants, dont Gwen qui va bien, ça n'a pas toujours été le cas, les traits ronds et doux, un papa, une maman, Cyril et Edwige, un papa, une maman, vous rappelez le slogan, on ne ment pas avec ce que deviennent vos enfants. Les Costa ont accompagné Gwen dans son chemin. C'est parfois drôle à lire. Ainsi, maman Edwige s'en allant dans un sex shop bobo chic du Marais pour acheter un binder. C'est une brassière qui compresse les seins. Ça coûte quand même 60 euros en boutique. Voilà. Les parents se sont forcés à ne plus dire Gaïa et ils ont aussi dû gérer ce qu'il ressemble à un deuil parce qu'ils ont quand même perdu au fond une fille. Dit la maman, j'adore les photos, j'en fais beaucoup et je n'arrivais pas à regarder les photos de Gwen quand il était une fille. Quand je tombais dessus, je m'effondrais. Personne n'a jamais dit que c'était facile, mais c'est une histoire qui est loin des grands mots que l'on plaque habituellement sur ces phénomènes de société, là, à deux pas de chez nous, et c'est reposant dans le grand bruit des identités qui, évidemment, comme tous les jours, saturent nos journaux.
Et dans le Figaro, Claude, on dénonce l'écriture inclusive.
Oui, c'est encore une histoire de genre et un combat identitaire, en tout cas pour le journal, qui veut garder la Maison France contre les délires de l'écriture inclusive, contre cette nouvelle marotte des féminismes, ce charabia, nous dit un académicien. Bon, pour mémoire, l'écriture inclusive, c'est une manière de rappeler la part féminine d'un mot avec un point, le point milieu, agriculteur.ris. C'est une convention peu littéraire recommandée par le Haut Conseil de l'égalité homme-femme et ça se répand, même sous la plume de Pierre Gattaz, même bientôt sur nos claviers d'ordinateur, nous dit le Figaro, et c'est là que ça devient intéressant. Au-delà de sa colère et de ses titres, le journal nous propose une enquête complète et sérieuse sur ce qui est en train de se passer, comme si finalement sa violence n'était qu'un masque qu'il se posait pour se rappeler qui il est. C'est humain, finalement, un média, ça n'échappe pas au réel. On tourne quelques pages du même journal Le Figaro et dans le cahier économie on trouve ceci. Les femmes sont toujours sous-représentées dans les directions des grandes entreprises, les fameux COMEX, les comités exécutifs. Une seule femme à la tête d'un groupe du CAC 40, Isabelle Cochère, directeure générale de Engie. Et cette absence relativise l'outrage fait plus haut à la langue.
Et cet effacement des femmes, Claude, on le retrouve dans plusieurs journaux aussi ce matin.
Et les journaux peut-être y participent eux-mêmes. Dans les Échos magazines, on lit ainsi un reportage sur les femmes des grands chefs, les grands cuisiniers. Madame Gagnère, qui au fait est aussi écrivain, Madame Troisgros, Madame Bras, elles modernisent les décors, elles font de la communication, du droit, du management, pendant que ces messieurs des artistes cuisinent, mais il faut être avec eux en fusion. Ça se lit bien, mais avec un sentiment de malaise, le même malaise que l'on éprouve dans Le Parisien en découvrant une dame qui s'appelle Bérangère Outrebon, épouse de l'entraîneur adjoint du Paris Football Club. Son métier consiste à accompagner et aider les femmes des joueurs professionnels forcées de déménager pour suivre leur vedette de mari. Comment fait-on pour exister ce « le » ? Eh bien, pour le savoir, on peut aller sur Chic Magazine. C'est une revue féministe sur le web. Chic, comme la joue en anglais. Hein. Il faut la découvrir. Elle raconte aujourd'hui des femmes oubliées de l'histoire. Ilma af Klint, pionnière de l'art abstrait. Rosaline Franklin, qui obtint la première image de l'ADN. Sa découverte fut volée par trois confrères qui obtinrent à sa place, en 1962, le prix Nobel. Ou bien encore Nannerl Mozart, la sœur aînée de l'autre, tout aussi douée, mais elle était une fille. L'article s'inspire d'un livre qui s'appelle « Ni vu ni connu », qui veut rendre sa place aux oubliés, proclame « Il faut reprendre notre place dans la rue, dans nos droits, dans le travail, dans la famille, mais également dans l'histoire », adresse faite aux femmes, infiniment plus radicale que l'écriture inclusive.
Il est 8h35, Claude. Libération a retrouvé Nicolas Sarkozy.
Et en la personne d'Emmanuel Macron, grâce à l'anecdote, dites, n'en parlons même plus de cette anecdote terrible qui entoure le président de la République. Allez, on devine que le bordel d'Emmanuel Macron a réjoui Libération. Enfin, un ennemi, une figure d'hostilité. En même temps, Libé est honnête et reconnaît au fil de ses mots que non, Macron n'est pas tout à fait Nicolas Sarkozy, mais enfin, quel bonheur de détester. Dans l'Humanité, Emmanuel Macron est présenté comme s'attaquant au pilier de la démocratie, un technocrate qui muselle la représentation nationale et asphyxie la démocratie locale. Voilà comment la gauche se reconstruit une identité. Est-ce exagéré tout ça ? Une autre histoire que raconte également l'Humanité rend un son, on va dire, plus réel. Dans le vieux Lyon, une extrême droite bien concrète, celle-là, identitaire, a pris ses quartiers et un horloger d'art qui s'appelle Pierre Carrie s'y oppose. Son magasin, du coup, a été vandalisé. Il s'appelle l'Horloger de Saint-Paul en hommage à un vieux film de Bertrand Tavernier qui revient. Voilà donc les violences françaises, elles deviennent du papier. À l'opposé de l'Humanité idéologiquement, deux journaux se font peur. Valeurs Actuelles se terrifie d'une conquête islamique de la France, c'est à la une, et le Figaro magazine dénonce l'islamosphère dans un inventaire à la Prévert de gens trop mous. Trop mous envers qui ? L'islamosphère. L'islamosphère, pour la une du Figaro magazine, ce sont les agents d'influence de l'islam. Oui, les agents d'influence de l'islam, pas de l'islamisme. Il est des lapsus qui disent le moment. Il faudrait ne jamais faire de titre.
Et on termine, Claude, à 8h37 avec la croix qui nous rappelle des conflits oubliés.
Oui, ces guerres dont on ne parle pas, qu'occupés que nous sommes avec nos prurites identitaires, on lira donc ce qui arrive au Mozambique, au Congo-Brazzaville. 138 000 personnes ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence. En Nouvelle-Guinée ou en Birmanie, à côté de la tragédie des Rohingyas, se prolongent des guerres ethniques. Tout cela, Nicolas, j'en suis désolé, est bien lourd avant un week-end, mais on n'échappe pas aux tragédies. Elles sont diverses, elles sont plurielles. Dans Libération, vous apprendrez qu'en Argentine et en Uruguay, on torture des juments qu'on engrosse, puis qu'on saigne pour prélever une hormone qu'elles développent alors dont nos élevages font leur profit. Voilà ce que l'on fait aux bêtes. Pour se consoler et s'interroger, cette histoire que j'ai trouvée dans la Dépêche, elle vient d'ailleurs, c'est-à-dire de chez nous. Poupette, qui était une génisse blonde d'Aquitaine, une vache donc de 5 mois, protégée d'un petit élevage depuis Ségur, tuée mystérieusement de plusieurs tirs de fusil dans un champ. Elle faisait partie de la famille, elle n'aurait jamais été destinée à l'abattoir, se lamente la grand-mère de la famille. Elle nous suivait partout comme un chien, comme un petit chien. Voilà, nous entrons dans ce week-end avec cette histoire étrange. À quoi tient la tendresse ?
Claude Askolovitch, merci.